Ensemble, le PowerPoint s'affiche. Merci beaucoup. Vous pouvez déjà, pendant que je fais le lien avec la pensée de la semaine dernière, vous pouvez déjà ouvrir le premier livre de Samuel, si vous voulez bien. Premier livre de Samuel, au chapitre 27. Et nous allons poursuivre ensemble ce matin notre thématique « Il restaure mon âme ». Depuis le mois de septembre, depuis deux mois, nous sommes sur cette thématique ô combien importante. Si il est vrai, frères et sœurs, chers amis, s'il est vrai que Dieu est réellement le Dieu de la restauration, le Dieu des guérisons intérieures, si c'est vrai que, oui, il nous relève, il nous remet sur pied, il répare ce qui est cassé en nous, il nous amène à des restaurations, comme on l'a vu, totales et définitives. C'est son plan, c'est sa volonté. Il veut aussi nous emmener dans un avenir nouveau. Il veut aussi faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Amen. Mais maintenant, il est aussi une évidence à la lumière de nombreux récits bibliques, de toute l'écriture en vérité. Il est tout aussi vrai que s'il est le Dieu de restauration, il est tout aussi vrai que ça ne se fera pas sans nous. Ça ne se fera pas sans moi, ça ne se fera pas sans toi personnellement. En d'autres termes, on sait pertinemment que ça ne tombera pas tout cuit du ciel par enchantement, parce qu'il existe, la Bible est claire à ce sujet, il existe des chemins que nous pratiquons, et ces chemins sont soit des chemins spirituels, des chemins de restauration, ou alors des chemins, des faux chemins, qui vont nous entraîner dans des ornières, dans des impasses, et qui ne régleront jamais rien. Et c'est extrêmement important, c'est ce que nous faisons, d'examiner, de considérer, d'identifier, mais de pratiquer aussi les différents chemins de restauration. Et la difficulté pour l'âme humaine, pour les brebis que nous sommes en général, et qui plus est quand on a été blessé, c'est de discipliner notre âme et de l'emmener à aller sur un sentier de justice, un chemin de restauration, et ne pas la laisser partir sur des autoroutes, sur des boulevards de facilité. Et c'est là que commence à être se situer l'enjeu. Et c'est là que nous avons vu dans les messages précédents une des périodes réellement critiques de la vie de David, cette période avant qu'il ait déjà été oint par Samuel, mais avant qu'il n'accède au trône, il y a toute cette période où il est poursuivi par Saül. Saül s'est lancé par orgueil, par jalousie, dans une folie, il n'y a pas d'autre mot, une folie destructrice, charnelle, et il sait qu'il est déchu, il sait que David est déjà le prochain roi, et David, à ce moment-là, vit une pression terrible. David est victime. Il n'a rien fait pour mériter ça, il n'est coupable de rien, il vit une pression terrible, sa vie est en jeu. Et on a vu la semaine dernière que là, il a à un moment, pas à un moment, il a à deux reprises, l'occasion d'en finir avec Saül. Saül est à sa merci. Et c'est là que on a vu qu'à deux reprises, il a l'occasion de mettre un terme à ce cauchemar, à cet exil, et d'accéder au trône qui lui est destiné, qui est légitime. Il est destiné à cela, mais là, il a une réaction qui est certes surprenante, mais pourtant terriblement spirituelle, et il n'y en avait pas d'autre à avoir. David dit « Non à la vengeance, je ne toucherai pas à Saül. » C'est à l'Éternel seul de régler ce problème, de le frapper, soit un jour qu'il arrive, soit un jour que, mais peu importe ce que Dieu va faire ou comment il va le faire, c'est à l'Éternel seul de frapper, de gérer, d'intervenir. Et David dit, moi, je ne toucherai pas à Saül. Frères et sœurs, notre âme, spontanément, parce que nous, nos épées et nos lances ne sont pas dans nos mains, nos épées et nos lances, elles sont là, elles sont dans nos bouches. Et on voit que David a refusé de se substituer à Dieu, il a laissé Dieu être Dieu sur l'injustice qu'il vivait, il a refusé la vengeance, il a refusé toute forme de combat charnel, et il ne s'est pas laissé influencer, ni par des circonstances, ni par des mauvais conseils, notamment de Abishai et autres. Et nous avons vu, et c'est là que nous nous étions arrêtés la dernière fois, frères et sœurs, que ce qui doit nous conduire de façon générale dans nos vies chrétiennes, mais d'autant plus quand nous sommes blessés et que notre âme a envie de partir sur un mauvais chemin, ce qui doit nous conduire, ce sont les principes de la parole de Dieu. Ce qui doit te conduire, mon bien-aimé, ce ne sont pas tes blessures. Ce n'est pas non plus ton désir de vengeance. Ce n'est pas ta soif de justice. Ce n'est pas non plus tes sentiments, tes peurs, les circonstances ou les inquiétudes. Tout ça, ce sont de mauvais conducteurs derrière lesquels l'ennemi de ton âme se cache pour te faire dérailler. Ce qui me conduit, ce sont les principes de la parole de Dieu. Et j'avance et je marche dans des sentiers de justice, c'est-à-dire des sentiers dans lesquels je suis bien positionné pour avoir l'approbation de Dieu et avoir la bénédiction et la restauration divine. Amen. Et jusque-là, eh ben, tout était merveilleux pour David, bien que les circonstances soient compliquées. Et nous arrivons à 1 Samuel 27, parce que le problème, c'est que David a fini par craquer sous la pression. Et on va voir ce qui s'est passé et comment il s'en est sorti. 1 Samuel chapitre 27. Le titre de mon message, vous le voyez, c'est « Le prix élevé du compromis ». Non au compromis, le prix élevé du compromis. 1 Samuel 27, verset 1er. David dit en lui-même « Je périrai un jour par la main de Saül ». Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath. Pour l'instant c'est de l'hébreu, mais vous allez comprendre, tout est important. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille. David avait ses deux femmes, Achinoam et Abigaël. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et 4 mois, soit 16 mois. Nous allons directement au verset 12, j'écourte un peu la lecture pour tirer simplement l'essentiel, le plus important de la pensée. Verset 12, Achish se fiait à David et il disait, « David se rend odieux à Israël son peuple et il sera mon serviteur à jamais. » Nous allons plus loin ensemble, au chapitre 30, je vous ai mis les références ici sur le PowerPoint. 1 Samuel chapitre 30, on prend le verset 1er. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient même plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées également. Verset 6, David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ?» L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Versets 18 et 19, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Alors qu'à deux reprises, même à quatre en vérité, mais deux récemment, David a fait l'expérience de la protection de Dieu, que David l'a épargné deux fois dans le palais et deux fois dans le désert. Quatre fois, David a été sauvé de la main de Saül par la grâce et la puissance de Dieu. Mais David, parce qu'il est humain comme nous, parce qu'il faut que ces choses soient écrites, parce qu'il faut que je voie comment je peux me sortir de mes impasses et de mes compromis, quand je suis confronté aux conséquences de mes inconséquences, parce que c'est de ça dont il est question. Certes, David n'a pas touché à Saül, mais il a cessé de se réfugier en Dieu. Et là, on est très loin des psaumes. Mon refuge, mon abri, ma haute retraite, ma tour forte, ma forteresse, éternel mon Dieu, en toi je me confie. Si une armée se campait contre moi, je n'aurais qu'un point de crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur serait plein de confiance. Oh, on est très très loin du psaume 27 là, David. Très loin. Il a quitté le véritable sentier de justice, le vrai chemin de restauration. Et là, David va prendre une autoroute de facilité qui malheureusement va lui coûter très cher et lui occasionner beaucoup de douleurs. Voilà que le vainqueur est vaincu. Voilà que le héros national, celui de qui on chantait « Oh, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000 », voilà que le héros national est confronté à l'échec, un échec cuisant. Il s'est fait piller tout ce qu'il avait. Pareil pour les gens qui l'avaient suivi. La ville est ravagée, incendiée. On a tout pris, on a tout dérobé, tout est parti. Ils ont emmené captifs les gens de leur maison. Il ne reste que des ruines, des cendres. Je pense qu'on peut vraiment parler de prix élevé quand nous pactisons avec l'ennemi de nos âmes et quand nous tolérons du compromis dans nos vies, quelle que soit la forme pratique de ce compromis dans nos vies. David, comment as-tu pu en arriver là ? David, un homme comme toi, comment as-tu pu en arriver là ? Il faut revenir, frères et sœurs, pas forcément bien loin, mais il faut revenir, comme quand on est en voiture, on revient sur nos pas et on revient à l'endroit où on a commencé à s'égarer. Et si on trouve l'endroit où on peut reprendre le bon chemin, à quel moment est-ce que ça a commencé à virer de travers pour David ? À partir du moment où verset 1er, chapitre 27, verset 1er, pour une simple pensée, David a eu une pensée, pas 50. David a eu une pensée qui était erronée, une pensée qui était fausse, une pensée qui était dictée par ses peurs, une seule pensée. David dit en lui-même, alors que Dieu l'a délivré 4 fois, David, tu as eu sous tes yeux la puissance de Dieu. Comment peux-tu dire en ton cœur, je n'ai rien de mieux à faire que d'aller me réfugier chez les Philistins, quand tu sais qui sont les Philistins ? Ce récit me parle aussi, me montre à titre d'excellent exemple, de la puissance de nos pensées. Frères et sœurs, je ne suis pas méfiant envers aucun pasteur. Je ne suis pas méfiant envers aucun membre de ma famille. Je ne suis pas méfiant envers aucun membre d'église. Je ne me méfie de rien ni de personne. Je ne me méfie même pas de l'ennemi dans une certaine mesure, je sais qu'il est vaincu. Vous savez quelle est ma plus grande peur ? De qui est-ce que j'apprends à me méfier au fur et à mesure des années chrétiennes, des années de vie avec Dieu ? J'apprends à me méfier de moi-même et de mes pensées. Parce que mes pensées, c'est ce qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. Nous pensons, nous parlons et nous agissons. Mais tout à l'origine vient de la pensée. Et nos pensées, bien-aimées, elles sont puissantes. Nos pensées déterminent nos choix. Nos pensées déterminent nos directions. Et si nous ne pensons pas la pensée de Dieu, c'est ce que je vous ai souvent dit, même si je ne suis pas là depuis longtemps, mais je vous le dirai encore souvent. La Bible, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle n'est pas là seulement pour me révéler qui est Dieu. C'est déjà merveilleux. La Bible n'est pas là simplement pour me révéler qui je suis. Ça ne m'arrange pas, mais j'en ai besoin. C'est aussi merveilleux. La Bible est là pour m'amener à penser comme Dieu pense, à voir comme il voit, à estimer les situations comme il les estime, à raisonner comme il raisonne pour finalement agir comme lui aurait agi. Et si la parole de Dieu ne détermine pas mes pensées et mon regard sur lui, elle, moi, la situation, le monde, ma famille, l'ennemi, les difficultés, je vais dérailler. Et David, comment est-ce que ça a commencé? Tout a commencé parce qu'il a cessé de penser comme Dieu pense. Et ce récit me montre à quelles conséquences, même si par la grâce de Dieu, on va le voir, il y a eu restauration, bien sûr, mais ce récit me montre à quelles conséquences on s'expose, à quelles blessures inutiles on s'expose lorsque l'on ne pense pas comme Dieu, lorsqu'on est conduit par notre propre pensée, par notre propre volonté. Les pensées sont puissantes, elles déterminent nos choix et nos directions. David a été conduit à ce moment-là. Ses yeux, en d'autres termes, n'étaient plus sur son berger. Ses yeux étaient sur Saül et sur lui-même. Et c'est ce qui a fait que tout a commencé, voilà, je vous l'ai mis ici, par une simple pensée, par une peur. Et c'est ce qu'il fait qu'il va se réfugier chez Achish. La peur nous fait faire des choses stupides, stupides et encore stupides. La peur est une arme de l'ennemi, la peur est une puissance spirituelle, frères et sœurs. Achish, noirci de peur, il est roi de Gath. Ça signifie pressoir. Généralement, quand on presse quelque chose dans un pressoir, il n'en ressort pas grand-chose. Hein. Et qui plus est Gath, c'est la ville de Goliath. Goliath, qu'il a renversé, vaincu et coupé la tête, 1 Samuel 17. Il va se réfugier dans ce pays-là. Achish est fils de Maok, ce qui signifie oppression. David a eu peur. Bien avant cet épisode, David avait déjà eu peur devant Achish. Souvenez-vous ce passage quand par deux fois Dieu le délivre de la lance de Saül dans le palais. David prend la fuite et dans sa fuite, il va faire juste un passage par ce pays des Philistins et il a déjà rencontré Achish. Et Achish, ce roi païen qui est un type de l'ennemi de nos âmes, ce roi païen Achish, 1 Samuel 21, quand David le voit, il est dit que David est saisi d'une grande peur. Et c'est ce récit où David, parce qu'il ne sait pas comment gérer le truc, il va commencer à se faire passer pour un fou. Et qu'il fait exprès de baver, il se fait vraiment passer pour un fou. Et Achish le regarde, il dit « Mais n'ai-je pas suffisamment de fous dans mon royaume pour que vous m'ameniez encore cet enfant des Hébreux ?» Et il le dégage. David avait déjà rencontré Achish. David savait que Achish était un problème. David savait pertinemment que Achish lui faisait peur. Mais David a quand même été se réfugier chez lui. La peur nous fait faire des choses qui sont totalement incohérentes. Et en plus, quand David avait quitté le palais, je ne vous l'ai pas mis ici, 1 Samuel 22, après ce premier épisode de peur avec Achish, 1 Samuel 22, quand David a fui, l'Éternel lui avait dit, par l'intermédiaire du prophète Gad, il lui avait dit de rester dans le pays de Juda. Ça va toujours ? Vous suivez ? Conduit par ses peurs, c'est ça l'origine de tout, bien-aimé. Une pensée, un sentiment, une peur, une panique, une angoisse à l'intérieur. Conduit par ses peurs, David va rentrer dans une période de compromis qui va durer, vous l'avez lu comme moi, 16 mois. Période pendant laquelle il va penser avoir la paix. Erreur fatale. Le compromis, quelle que soit sa forme, est toujours très alléchant. Il est facile, il est toujours très séduisant. Mais la facture, il faudra la payer. Parce que l'ennemi de nos âmes fait toujours payer ses factures. Et il les fait payer au prix fort. Pas tout de suite, il a le temps. Le diable, c'est le plus grand et le meilleur organisme de crédit que l'on puisse imaginer. Parce que jamais il fait payer tout de suite. Histoire que tu t'installes bien dans ton compromis et tu t'imagines que tu es bien tranquille. Mais au moment où tu t'y attends le moins, les Amalécites font une invasion et vont détruire tes faux refuges. Et c'est ça que m'enseigne ce texte. Alors oui, oh oui, parce que le diable, mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait un petit peu de résultats sur l'instant. Bien sûr, il a été tranquille. Saül, vous l'avez lu comme moi, Saül a cessé de le poursuivre. Évidemment. Alors, il a été tranquille d'un côté. Oui, mais le problème, David, c'est que ce que l'ennemi va te donner d'un côté, il te le prendra 10 fois de l'autre. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Avant de faire un compromis, je vous le dis, quelle que soit sa forme. David, chapitre 30, verset 1er, c'est une invasion. L'ennemi a aussi plusieurs facettes. Ah là, cette fois-ci, ce n'était pas les Philistins. Ah, c'était les Amalécites. Ce qui a été d'un côté a craqué de l'autre parce que le diable, lui aussi, sait faire payer ses factures de différentes façons. Et David, comme nous, bien-aimés, la grâce de Dieu est extraordinaire. Elle va bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, frères et sœurs. La grâce de Dieu n'est pas permissive. La grâce de Dieu n'est pas laxiste. Jamais. Et malgré tout l'amour que notre Père Céleste a pour nous, nous serons toujours confrontés aux conséquences de nos inconséquences. Tôt ou tard, c'est inévitable parce que nous devons apprendre à obéir. Et là, David, ce n'est pas une super période, mais c'est dans la Bible. David s'aperçoit qu'ils ont fait une invasion, ils ont tout détruit. Sa situation était déjà compliquée. Il a une petite période de paix, mais c'est une fausse paix. Il a Tsiklag comme ville-refuge, mais c'est un faux refuge. Et il aggrave tout par un mauvais choix. Mais nous, ça nous arrive jamais, n'est-ce pas? D'aggraver nos situations compliquées par des mauvais choix. Nous, on ne se met jamais la double peine. David, lui, il s'est mis la double peine. Ah, David, la brebis que tu es a voulu se conduire toute seule. D'accord? Tu m'expliques maintenant que tu as fait un compromis? Ils sont où les verts pâturages, ce dont on a parlé il y a quelques semaines? Elles sont où les eaux paisibles dans ta vie, maintenant que tout est en ruine? Où sont tes verts pâturages? Où sont tes eaux paisibles, David? David, tu es dans un entre-deux qui est malsain, qui est destructeur. David ne mène plus, si vous lisez l'ensemble du récit, David fait des choses odieuses, il devient criminel. David ne mène plus les combats de l'Éternel, mais il livre ses propres combats, ses propres guerres. Il est dans des combats charnels. Celui qui était là par la grâce de Dieu a dégringolé parce qu'il a eu une pensée erronée, parce qu'il a désobéi, parce que Dieu lui avait dit de rester en Juda. Il y a aussi de la désobéissance. Même quand vous regardez, si vous regardez une carte, ce qui est fou, même sous nos yeux, géographiquement, physiquement, même géographiquement, David est dans un entre-deux. Quand vous regardez une carte, vous vous apercevez que le pays des Philistins, vous regardez Israël, si vous prenez une carte d'Israël, vous vous apercevez que le pays des Philistins, c'est ce qui correspond à peu près à la bande de Gaza actuelle, à peu près. C'est le pays des Philistins, il y a le pays de Juda à droite, et au milieu, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a Tsiklag. Mais qui est quand même côté, c'est au milieu, mais malheureusement, qui est côté philistin. Et même géographiquement, David, ça se voit, il est dans un entre-deux, il n'a rien à faire là, il s'est installé au pays des philistins, il est en train de mener ses combats personnels. Les Amalécites font une invasion, l'ennemi qui lui a donné d'une main va lui reprendre 10 fois de l'autre. Maintenant, David, il faut payer les factures. Et malgré tout l'amour que Dieu a pour toi, il ne t'épargnera pas les conséquences de tes inconséquences. Vous êtes content d'être venu ce matin? C'est passionnant la Bible, hein? Moi, je m'ennuie pas, hein? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il va bien falloir se sortir de cette impasse. Comment on va se sortir de là, David? La bonne nouvelle de l'histoire, frères et sœurs, c'est que Dieu n'a pas changé. Quand nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Attention! Sa fidélité comme sa grâce n'est pas laxiste, elle n'est pas permissive. Le fait qu'il reste fidèle ne signifie pas que le péché et le compromis ne soient pas importants. Dieu a en horreur le péché et il a en horreur toute forme de compromis parce qu'il est saint. Mais si Dieu reste fidèle, merveilleux Seigneur, c'est parce que c'est notre seule voie de retour. C'est pas parce qu'il est d'accord avec ce qu'on a fait, c'est parce que c'est notre seule voie de retour. Alors il demeure fidèle. Et il est toujours le Dieu de la grâce suffisante, la grâce surabondante. Et on voit qu'elle a agi dans la vie de David, puisque au chapitre 30, verset 19, il nous est dit que David a tout ramené. Donc Dieu reste bien, effectivement, le Dieu du pardon. Il reste bien le pardon, le Dieu des retours, des nouveaux départs, de la restauration. Mettez tous les mots que vous voulez. Il reste bien le Dieu des situations désespérées, le Dieu de l'impossible. Dieu veut, peut agir, même si tu es responsable de la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a une issue, parce que Dieu reste un Dieu de restauration, bon et fidèle. Mais ici, encore une fois, je vous dis souvent que le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas dans les circonstances. Les vrais problèmes, frères et sœurs, viennent toujours dans nos cœurs. Et de savoir comment est-ce que nous nous positionnons. C'est une histoire de positionnement spirituel. Bien sûr, Dieu n'est pas d'accord avec ce que David a fait, évidemment. Mais le problème n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas les batailles que tu as perdues récemment. Le problème, ce n'est même pas en vérité ce que tu as fait, même si c'est grave aux yeux de Dieu. De toute façon, en dehors de la repentance, il n'y aura pas de restauration. On y vient, on est clair. Mais oui, bien sûr, le problème n'est pas dans les circonstances, puisque Dieu a déjà anticipé et déjà prévu aussi une solution plus grande. Donc le problème, c'est pas le nombre de batailles que j'ai perdues. Le problème, c'est pas depuis quand tu es dans l'échec. Le problème, c'est pas la forme de ton échec. Le problème, ce n'est même pas que tu sois responsable de ton échec, parce que Dieu reste un Dieu de grâce. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors moi, ce qui m'interpelle, avant de parler de ce que David a fait, ce qui m'interpelle, c'est ce que David n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, David ? Rester sans rien faire. Ça, c'est le domaine par excellence de la nature humaine. Rester à rien faire. Se lamenter devant nos ruines. Oui, tu te rends compte, j'avais pas le choix, j'avais la pression, j'étais pas bien. Oui, tu comprends, les méchants amalécites. Puis comment on peut être méchant comme ça ? Moi, je comprends. Il y a quand même des gens qui sont méchants dans ce monde, hein. Comment on peut être méchant comme ça ? Moi, je comprends pas les amalécites. Oh ! Excuse-moi. Ça ne te restaurera pas. C'est de l'apitoiement. David, tu n'as rien à faire à Tsiklag. Tu es mal positionné. Ça ne fonctionnera pas. Donc tu peux pleurer tes larmes de ton corps, mais ce ne sont pas des larmes de repentance, ce sont des larmes d'apitoiement. Et si tu restes là à te lamenter devant ce que l'ennemi a dérobé tes enfants, il a dérobé ta joie, ta sainteté, il a dérobé ta paix, il t'a pillé intérieurement à cause de tes compromis et tout ce que ta famille a perdu parce que tu n'étais pas positionné comme il faut. C'est pas parce que tu vas te lamenter devant tes ruines. Oh frère, si c'était à refaire, je ne ferais pas comme ça. Bah oui, sans blague, je me doute. Hein. J'ai jamais vu personne dire « Ah ben si c'était à refaire, je referais un bon compromis. » Ben non. Hein. Tu sais frère, tu ne peux pas refaire ton passé et entrer dans l'avenir que Dieu a pour toi en même temps. La seule façon d'en finir avec le passé, ça s'appelle la repentance. Les regrets ne règlent rien. Saül était bourré de regrets et de remords, il s'est suicidé. Judas était bourré de regrets et de remords, il s'est pendu. Tes regrets ne régleront rien. Est-ce que je vais abandonner ? Laisser tomber la vie de la foi, parce que je suis tellement déçu, découragé de mes erreurs, de celles des autres, qu'on finit par décrocher, on devient résigné, on devient fataliste. Intérieurement, il n'y a plus de ressort. Ah, on n'a pas nécessairement quitté l'église. C'est là qu'on décroche. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, David ? Ah ben, il a quand même fait quelque chose qui est quand même pas mal. C'est qu'il ne s'est pas entêté dans son compromis. Il n'a pas été voir Akish pour lui demander un coup de main. Il a compris qu'il n'avait plus rien à faire avec lui. Il a compris qu'il fallait en finir avec Akish, avec le compromis. Il n'a pas non plus foncé tête baissée en disant « Oui, ben, de toute façon, moi je suis un vaillant guerrier de l'Éternel, j'ai déjà vaincu un lion, un ours, des armées, j'ai vaincu Goliath. Chut, allez tout le monde, on se motive, allez on va chercher et on va exterminer les Amalécites et on va tout ramener. Non. Encore un mauvais choix. Pourquoi les brebis que nous sommes sont-elles... Je vois que vous êtes super content d'être venu ce matin, mais je suis désolé, ce matin c'est comme ça. Pourquoi les brebis que nous sommes, je me pose souvent la question, sont si fortes pour reproduire les mêmes schémas ? Avec quelle facilité on reproduit les mêmes erreurs ? Au moins David, il a compris qu'il ne fallait pas aller dans cette voie-là. Il ne fallait pas aller voir Akish et il ne fallait pas foncer tête baissée contre les Amalécites. Après, il y a aussi autre chose que la nature humaine aime beaucoup faire, mais que David n'a pas fait, c'est de chercher des coupables. Parce que depuis l'Éden, nous avons en nous, à cause de notre orgueil et du péché qui nous a contaminés, nous avons un index qui est d'une force et d'une puissance qui va nous amener sans cesse. Il nous faut un méchant dans l'histoire. Et c'est sa faute à elle. Seigneur, c'est la femme. Dès qu'il a mangé le fruit, quelque chose s'est mis en marche en lui. Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, ah, c'est pas moi, c'est le serpent. Et nous avons besoin, c'est inné, nous sommes humains, et à cause du péché qui nous a corrompus, nous avons besoin de pointer quelqu'un du doigt. Mais quand je pointe les gens du doigt, ça restaure pas mon âme. Et là, en réalité, les hommes de David, lui, David n'est pas entré dans ce chemin-là. Mais il est entré, les hommes de David sont entrés dans le mépris. Ils avaient tous de l'amertume dans l'âme. Et à cause de l'amertume qu'ils avaient dans l'âme, ils pensaient même, vous avez lu comme moi, ils étaient même arrivés à la pensée de lapider David. Et David fut dans une grande angoisse parce que ses propres amis avaient maintenant besoin de vengeance. On se demande des fois comment les gens qui sont si proches de nous peuvent parfois faire volte-face et devenir les pires. Et ils voulaient le lapider. Et encore une fois, bien-aimés, les lapidations pour nous. On n'a pas besoin de pierre, nos lapidations sont verbales. Non, David a compris que ça servait à rien de rester sans rien faire, de tout laisser tomber, d'aller voir Achish, de foncer tête baissée. Il a compris que ça servait à rien de pointer les autres du doigt. Vous savez, bien-aimés, tous, un jour ou l'autre, là je me mets dans la peau des hommes de David, tous un jour ou l'autre, on a été déçus d'un pasteur, d'un conducteur spirituel, d'un frère dans l'église que l'on pensait être un pilier, un modèle, d'une sœur que l'on croyait être spirituelle. Tous, un jour ou l'autre, on a été conduits par des David défaillants. Tous. Tous, un jour ou l'autre, on a suivi des hommes qu'on n'aurait pas dû suivre. Si les hommes de David avaient eu un peu de bon sens, ils ne l'auraient pas suivi à ce moment-là. Ça se voyait que David, il avait décroché. Il fallait pas le suivre. Mais tous, un jour ou l'autre, on a suivi des hommes qu'on n'aurait pas dû suivre. Tous, un jour ou l'autre, on a accordé notre confiance à des gens qui ne devaient plus avoir notre confiance. Mais le problème, c'est qu'il s'appelait... Ah, il s'appelle David. Et David, c'est le vainqueur de Goliath. Oui, mais Goliath, c'était en 1936. Donc, depuis le temps, ce qui m'intéresse, c'est pas l'exploit passé. Je veux savoir qui est David aujourd'hui. Et aujourd'hui, le problème de David, c'est pas méchant. Ben, c'est qu'il a décroché. Et ses amis l'ont suivi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait le nom qui allait bien. Il s'appelait David. Alors ils l'ont tous suivi. Et ensuite, comme il les a mal conduits, ben ils avaient tous envie de le lapider. C'est comme ça que ça marche. Tu sais, mon frère ou ma sœur, lapider les David qui t'ont mal conduit ne te restaurera pas. Ok ? Achever les David qui vous ont déçu ne vous restaurera pas. Qu'est-ce qu'il a fait, David ? David, il est revenu à l'essentiel. Il a compris ce qu'il ne devait pas faire. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, chose qu'il n'avait plus fait depuis 16 mois. C'est ce qu'il avait abandonné, cette présence, ce contact, cette intimité. Il consultait Dieu et il a cessé à un moment de le consulter. Ça a été le démarrage de tous ses problèmes. Et David a compris qu'il fallait revenir de tout cœur à Dieu, à sa présence, revenir à l'essentiel, parce que David, à ce moment-là, oui, a réellement, en tant qu'enfant de Dieu, il a quand même perdu l'essentiel. À quoi je vois ça ? Je vois ça au fait que David a réclamé l'éphod. L'origine de l'éphod, frères et sœurs, se trouve dans Exode 25, Exode 28. Et cette éphod, elle nous ramène à la présence de Dieu parce qu'elle était revêtue d'or et de fin lin. Elle était extrêmement précieuse. Et cette éphod, on dit un éphod, c'est masculin. Cette C-E-T, éphod, c'est masculin. L'éphod, Aaron, le sacrificateur, Aaron l'a porté sur lui chaque fois qu'il entrait dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et pour David, réclamer l'éphod à ce moment-là, c'était pour lui l'expression de son profond désir de revenir à l'essentiel, de revenir à la présence de Dieu, de revenir à cette présence, à ce contact, cette communion, cette écoute, cette obéissance de Dieu qu'en réalité il avait abandonné 16 mois auparavant. Et c'est l'éphod qui me montre qu'en réalité, David a réellement ce cœur, cette volonté de revenir. Et voyez, là encore, David, il m'enseigne. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est ce que dit la Bible. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas un homme qui ne commet jamais d'erreur. L'homme selon le cœur de Dieu est un homme qui sait se repentir. L'homme selon le cœur de Dieu n'est pas quelqu'un qui n'a jamais déraillé ou commis de faute. L'homme selon le cœur de Dieu, et c'est en cela que David reste un modèle. Même, pardon ce que je vais dire, c'est bizarre. Même dans l'échec, il reste un modèle. Même après l'échec, il reste un modèle. Parce qu'il montre la voie de restauration. Là, ce n'est pas la restauration des blessures qu'on m'a infligées. Là, c'est la restauration des blessures dont je suis le seul responsable. Mais il reste un modèle. Et il a su revenir avec un cœur repentant, se détourner de sa mauvaise voie. Il a su revenir à l'essentiel, à cette éphod. Mais l'éphod, il la connaissait. La présence de Dieu, il la connaissait. Consultez Dieu, demandez à Dieu, est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas ? Est-ce que je dois parler ou est-ce que je dois me taire? Seigneur, comment tu vois la situation? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Seigneur? Mais ça, David l'avait déjà fait. 1 Samuel, je ne vous l'ai pas mis ici. Ah si, 1 Samuel 23. Il revient aux anciens sentiers. Il avait déjà pris l'éphod pour consulter Dieu. Donc, ce n'était pas nouveau pour lui. Il n'est pas en train de se convertir. Il est en train de se repentir. Il est en train de revenir. Et David a fait les choses dans l'ordre. Il a compris que Achish et Tsiklag, c'était un faux refuge. C'était un piège diabolique, une illusion. Alors il est revenu ensuite, il a demandé l'éphod, il revient d'abord à la présence de Dieu. Il vient s'appuyer sur Dieu, il vient puiser à nouveau, il vient à nouveau chercher les ressources nécessaires. Le problème, bien-aimé, dans ta vie, ce ne sont pas les Amalécites. Le problème, c'est de savoir quel est le véritable appui de ton cœur. C'est ça la vraie question. Quel est aujourd'hui le véritable appui de ton cœur? Et en d'autres termes, David a retrouvé la table du berger dont on avait parlé il y a quelques semaines. Il retrouve cette présence, cette communion et des ressources. Il est fortifié, il est reconnecté. Et puis ensuite, il retrouve la voix VOIX de Dieu. Tellement de bien-aimés dans les églises ne connaissent pas la voix de Dieu en eux. La seule voix de Dieu qu'ils connaissent, c'est celle du pasteur. Retrouver la voix VOIX de Dieu. Il a, avec l'éphod, il est venu humblement repentant, il a consulté Dieu. Et ensuite, avec un désir d'obéir, il a retrouvé la voix VOIX de Dieu pour retrouver la voie VOIE, le chemin qu'il devait à nouveau parcourir en obéissant à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé, consulter Dieu? Souvent, on dit, vous inquiétez pas, frère. Ah, mais j'ai prié pour cette situation. Ben oui, justement, pardon, c'est bien ce qui me fait peur. J'ai prié. Oui, mais t'as prié quoi? T'as prié pour que, je sais pas, Dieu bénisse, que Dieu règle, que Dieu te sorte de ceci ou de cela, que tu as prié pour que Dieu, oui. Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as humilié ton cœur devant ton Seigneur? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as cherché à savoir ce qu'il voulait? Et est-ce que tu as, parce qu'il ne s'agit pas de prier au nom de Jésus, Seigneur, tu vas bénir et tu vas régler tout ça au nom de Jésus, amen. Et je fonce. Non, je me tiens devant Dieu le temps nécessaire jusqu'à ce qu'il me réponde. David consulta l'Éternel, l'Éternel lui répondit. Si Dieu n'a rien dit, ne bouge pas. Si Dieu n'a rien dit, ne fais pas de choix, ne prends pas de décision. Seigneur, est-ce que je dois poursuivre cette troupe? Est-ce que je dois m'engager dans ce combat, Seigneur? Si je te poursuis, si je m'engage dans ce combat, qu'est-ce que ça va donner, toi qui es prescient? Est-ce que je vais l'atteindre? Est-ce que je vais ramener? Et Dieu lui a dit, oui, poursuis, tu atteindras, tu délivreras. Et parce que Dieu lui a répondu, il y a été. Amen. Et c'est comme ça que ça fonctionne, frères et sœurs, consultez Dieu. David a attendu la réponse. Inutile, inutile d'aller. Je ne sais pas quels sont les combats qui sont devant toi. Et les choses que tu aimerais voir réglées, inutile d'aller sans avoir consulté Dieu. C'était sa première erreur. On ne va pas reproduire le même schéma. Puis, allez, pardon, avec quelle force? Ils n'avaient même plus la force de pleurer. Avec quelle force ils seraient-ils allés? Avec quelle force auraient-ils pu? Non, c'était totalement impossible. Ce qu'il fallait à David, ce qu'il faut à ton cœur, probablement à plusieurs cœurs ici ce matin, c'est ce véritable retour de cœur à Dieu, pas à l'église. C'est bien de venir à l'église, c'est très bien, c'est pas ça le souci. Mais il y a plus que ça, c'est que mon cœur revienne entier à Dieu. Il faut que la connexion personnelle entre toi et Dieu soit rétablie. Ça fait trop longtemps que la connexion entre toi et Dieu est interrompue ou qu'elle est parasitée. Il faut que cette connexion soit rétablie. Il te faut une relation nouvelle. Il te faut une intimité nouvelle. Il te faut une écoute nouvelle. Tu as besoin d'une obéissance nouvelle. Tu vivras des victoires nouvelles. Parce que les anciens sentiers sont toujours les mêmes. Amen. On va se recueillir un instant, frères et sœurs. Je veux apporter cette conclusion.